Merci, bonjour à tous. Alors, le titre qui figure dans le programme, c'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, je me suis permis de l'amender simplement en ajoutant un adjectif qualificatif, en ajoutant « sauvage ». C'est une proposition qui va faire le fil conducteur de mon exposé. Alors, je représente le directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. L'Agence de l'eau, c'est un établissement public. On a à plusieurs reprises ce matin parlé d'établissement public. Donc, je représente l'Agence de l'eau. Je vais vous montrer ce qu'a fait l'Agence de l'eau, déjà, en faveur des saumons. Dans quelle perspective se situe son action. Donc, une vision en arrière et une vision en avant. Alors, l'Agence de l'eau, le fondement de ses interventions, se trouve dans différents textes. Là, je vous en ai rappelé quelques-uns qui sont des textes fondateurs. Il y a tout d'abord la loi sur l'eau de 1964 qui a créé les agences financières de bassin. Maintenant, on parle d'agence de l'eau, mais c'est pour bien montrer que l'aspect financier, c'est ce qui a conduit à créer les agences de l'eau. C'était une époque, on va dire, lointaine, où il y avait des très très gros problèmes de pollution ponctuelle à résoudre. Et puis, au fil des décennies, le cadre d'intervention des agences de l'eau a évolué, notamment avec la loi sur l'eau de 1992, où on a inscrit des principes de planification par le SDAGE à l'échelle des bassins entiers, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et aussi par les SAGE, donc à une échelle plus locale, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc le premier SDAGE date de 1996. Ensuite, un événement très important dont on parle souvent dans le domaine de la politique de l'eau, c'est la directive cadre sur l'eau, donc qui date de 2000 et qui a pas mal changé le paysage. On en prend chaque jour la mesure, notamment en considérant qu'il fallait raisonner en obligation de résultat et non plus en obligation de moyens. La loi sur l'eau de 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, s'est située dans le prolongement notamment de la transcription de la directive cadre sur l'eau. Et puis enfin, il y a un SDAGE 2010-2015 qui est le deuxième SDAGE, mais qui est très différent du premier en ce sens qu'il est un des éléments de réponse, c'est un plan de gestion au sens de la directive cadre sur l'eau. Donc si on compare les deux SDAGE successifs, on obtient des choses qui sont quand même sensiblement différentes. Alors la directive cadre sur l'eau, un document de 2000, peut-être pas d'une lecture facile, surtout en ce sens qu'il est très long, quelques dizaines de pages, mais qui est vraiment un document de référence et il est sans doute utile d'y revenir régulièrement. En tout cas, retenez qu'on a une obligation de moyens. Le SDAGE, donc pour Loire-Bretagne, comme pour les autres bassins de la France, 2010-2015, je vous en ai déjà dit quelques mots. Et puis le dixième programme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui couvre la période 2013-2018, avec un volet redevance, que je ne développerai absolument pas ici, et un volet concernant les interventions, c'est-à-dire les aides qui sont attribuées. Donc voilà trois grands types de documents qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre un petit peu comment se mettent en place les interventions de l'Agence de l'eau et quelle est la logique. Donc vous avez le bon état des eaux qui est devenu au centre des préoccupations. Dans mon métier, il n'y a pas un jour travaillé où je n'entends pas parler du bon état. Bon état, il est toujours là. Ce qui est toujours là, ce n'est pas le bon état, c'est la quête du bon état. Et on va sans doute en reparler. Donc, la directive cadre, elle a dit le bon état avec une composante essentielle, même si ce n'est pas écrit qu'elle est essentielle, mais on s'est rendu compte que c'était vraiment là où on avait le plus de difficultés, c'est le bon état écologique. Le bon état chimique, on a un certain savoir-faire, on a déjà résolu certains problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas, ça ne veut pas dire que ceux qui restent sont faciles à résoudre, mais le bon état écologique, c'est quand même quelque chose de nouveau. Alors, ce bon état écologique a eu une incidence directe sur le contenu du SDAGE. Alors le SDAGE ne s'est pas alimenté que de la directive 4 sur l'eau, bien sûr. Il y a tout un tas d'autres éléments qui ont conduit à arrêter le contenu du SDAGE, mais il a une filiation qui est très importante avec la directive 4 sur l'eau. Et enfin, le 10e programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Là aussi, la flèche que je vais représenter là, elle est caricaturale. C'est une filiation importante qu'il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre comment le contenu du 10e programme a été défini, mais le 10e programme ne s'est pas alimenté que du SDAGE. Alors, le bon état écologique, d'une manière très simple, c'est on doit trouver dans les rivières des peuplements qui sont diversifiés, des peuplements vivants, et qui sont peu perturbés, alors peu perturbés, c'est-à-dire par rapport à une rivière où les influences liées à l'activité de l'homme seraient pratiquement nulles. On évalue l'état écologique en regardant plusieurs compartiments parmi les êtres vivants qu'on a dans un cours d'eau. Vous avez des êtres vivants qui sont aisément visibles à l'œil nu, ce sont les poissons que vous voyez en haut de la diapositive. Vous avez des végétaux, là aussi qu'on peut voir assez aisément, vous en avez un exemple à gauche. Vous avez des macro-invertébrés, des insectes, donc là qui sont à droite, qui sont encore visibles à l'œil nu, mais on utilise quand même des loupes binoculaires pour les identifier. Et puis enfin, vous avez des algues microscopiques, les diatomées, qui sont représentées à gauche. Donc c'est en regardant cette communauté de vie, qui doit être suffisamment diversifiée et pas trop éloignée d'un référentiel qui dépend de chaque rivière, et bien évident que ce référentiel n'est pas le même quand vous êtes dans une rivière de plaine ou si vous êtes dans une rivière de montagne avec des conditions très différentes. Je n'ai pas parlé de saumon. Saumon, c'est pas une espèce qui d'emblée est déterminante. Je parle du bon état global. Mais heureusement, tout ça converge. On serait sérieusement embêté s'il fallait choisir entre le bon état écologique et le saumon. Mais heureusement, il n'y a pas de choix à faire. Il y a même une très très forte convergence. Donc, le 10e programme de l'intervention de l'Agence de l'eau, il est vraiment marqué d'un saut. Nous devons aller vers le bon état des eaux. Sous-entendu, on n'y est pas encore. Il y a un principe important qui, dans la directive 4, c'est aussi un principe de non-dégradation. Donc on ne dégrade pas et il y a des actions de reconquête là où on s'est trop éloigné du bon état. Alors au niveau du bassin Loire-Bretagne, là je vous projette les chiffres de 2010, mais là en 2013 ils sont à peine meilleurs, ils sont du même niveau. Quand on regarde toutes les rivières, sur tout le bassin Loire-Bretagne, en très bon état ou en bon état, nous en avons seulement 30%. On est très très loin de l'objectif directive 4 où il faudrait, sauf exception, justifier que tout soit atteint en 2015. Bon. Il y a des possibilités des reports qui peuvent être tout à fait justifiés. Dans le bassin Loire-Bretagne, le SDAGE définit un objectif de 61% des masses d'eau en bon état en 2015. Bon, aujourd'hui, il est à peu près acquis qu'on n'y sera pas, bien sûr. Mais il y a vraiment un gros, gros travail à faire. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde pourquoi certaines masses d'eau ne sont pas en bon état, on trouve des facteurs déclassement. Pour certains, ces deux enjeux prioritaires que je vous présente là, qui sont liés à des pollutions, à la qualité physico-chimique notamment, mais on trouve aussi, et c'est sans doute là le facteur important qui permettra de gagner un cran, c'est tout ce qui a trait d'une manière générale à la qualité des rivières, à la qualité des milieux aquatiques, donc à la fois les cours d'eau, mais aussi les zones humides qui sont connectées aux rivières. C'est en gagnant sur le fonctionnement de cet ensemble-là qu'on va pouvoir améliorer les conditions de vie de tous les êtres vivants dans les cours d'eau et finalement atteindre ce que sont nos objectifs, le bon état. Alors, le 10e programme de l'Agence de l'eau a un certain nombre d'actions, je ne vais pas les détailler, vous pourrez les consulter, j'ai rappelé le site si vous êtes intéressé. Donc il y a des actions importantes dans le 10e programme de l'Agence de l'eau pour contribuer à cette reconquête. Et pour vous montrer combien c'est important, vous avez ici la progression des aides Alors jusqu'en 2012, c'est dû constater, à compter de 2013, c'est du prévisionnel, mais la progression des aides que l'agence de l'eau se propose d'attribuer pour toutes les actions en faveur des milieux aquatiques. Si on fait un retour en arrière sur ce qu'a pu faire l'agence de l'eau au cours du 9e programme, c'est-à-dire une période de 6 ans qui couvrait la période 2007-2012, cette période de 6 ans, je l'ai tronçonnée en deux, 2007-2009 et 2010-2012. Si vous regardez les différentes rubriques, je vous en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 rubriques. Sur chacune des rubriques, vous voyez que les 3 dernières années de la période de 6 ans, on a eu une activité beaucoup plus importante qu'au cours des 3 premières années. Donc c'est une activité qui a connu une croissance très importante au cours des 6 dernières années, et le pari qui est fait, c'est qu'on va rencontrer une nouvelle croissance au cours des 6 années à venir. Mais tout n'est pas encore au cours du 9e programme. En faveur de la continuité écologique, des choses ont été faites. 405 ouvrages ont été traités depuis 2007. Je ne remonte pas là en amont de 2007, mais il y a des choses en amont de 2007 qui ont été faites, et par exemple Maison Rouge, alors je disais tout à l'heure, le bon état, j'en entends parler tous les jours, Maison Rouge, je dirais, à l'agence de l'eau, il n'y a pas une semaine où je n'entends pas parler de Maison Rouge pour une raison ou pour une autre. C'est un exemple tout à fait intéressant montrant comment l'arasement d'un barrage, avec tout un tas de précautions qui ont pu être prises au préalable, a permis de rouvrir des axes très très importants pour les poissons migrateurs. Des actions sont menées pour restaurer les cours d'eau, restaurer les mineurs, mais je suis pas très content du terme restauration, parce que pour certains, il s'agit de revenir à l'état antérieur, donc d'entretenir et de conserver la rivière telle qu'on la connaît. L'idée, c'est bien de faire en sorte que la rivière, que les habitats de la rivière se diversifient toujours pour atteindre le bon état écologique. Et puis enfin, des actions ont été menées en faveur des poissons migrateurs, et des actions sont bien sûr inscrites dans le 10e programme, toujours pour les poissons migrateurs. Alors si je reviens à la question initiale, vers la sauvegarde durable du saumon sauvage, point d'interrogation. Je me garderai bien de répondre à cette question. Je la reformulerai éventuellement en indiquant que si on veut parler d'une population durable, viable, du saumon sauvage, ça renvoie immédiatement, et je l'ai entendu plusieurs fois ce matin, à la question de la reconquête du bon état des cours d'eau, sachant que dans le cas précis du saumon, c'est pas forcément le bon état qui doit être l'objectif, il y a sans doute des tronçons qui sont au sens des directives cadres en très bon état, qui doivent le rester, et peut-être même qu'en certains endroits, l'objectif pourrait être de passer d'un bon état à un très bon état. Mais on est bien dans une logique d'habitat avec différentes composantes, améliorer la continuité écologique. Les visites de cet après-midi vont être une illustration de ce qui peut être fait en la matière, et peut-être aussi de ce qui reste à faire. Il faut aussi améliorer la qualité chimique des eaux. On en a entendu parler ce matin, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Et puis la qualité des habitats, c'est vraiment quelque chose de, je le répète, de très important. Les conditions thermiques, alors là, c'est, excusez-moi, c'est peut-être trop facile, mais c'est un peu la douche froide. La question du réchauffement climatique peut nous interpeller. Si vraiment la température moyenne augmente de 3 ou 4 degrés, va falloir offrir à notre saumon des milieux vraiment très 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 favorables pour que la population sauvage continue de survivre. Mais ne nous plaçons pas d'emblée dans ce scénario. Considérons déjà que notre objectif pourrait être d'avoir des populations viables, sans même parler de changement de température. Mais c'est vrai que si c'est une année 2003 qui se reproduit trop souvent, on aura sans doute beaucoup de mal. Et puis quelques points que j'ai retenus de ce que j'ai entendu ce matin, ou avant même de passer à ce que j'ai entendu ce matin, mais c'est quand même lié, je pense qu'il faut largement, et c'est pas toujours facile, mais il faut passer d'une entrée, d'une approche espèce à une approche habitat. Une espèce en elle-même, on ne peut pas la sauvegarder. Ce qu'on peut sauvegarder, ce sont des habitats favorables. Je l'illustre tout simplement en regardant les directives européennes. On a une directive un petit peu ancienne qui est la directive oiseau. On pense espèce, oiseau, espèce. Une directive un petit peu plus récente s'appelle la directive habitat. Enfin, directive habitat, habitat faune flore, mais couramment on dit directive habitat. Ça illustre bien l'évolution qu'il y a eu entre je raisonne une espèce et finalement on a été conduit vers un raisonnement vers des habitats. Ce que j'ai retenu aussi ce matin, mais ce sera de nouveau abordé cet après-midi à la table ronde gouvernance sans doute, et là la petite scénette au début était très intéressante, c'est que nous sommes tous concernés dans le bassin. Depuis Saint-Nazaire jusqu'à l'amont de Poutès-Monistrol. Le saumon, les poissons migrateurs, c'est l'affaire de tous. Personne ne peut s'en emparer, ou si quelqu'un voulait s'en emparer, seul, il ne peut pas porter la solution. Ce que j'ai aussi pris, j'étais ébloui, ou comment dire, assommé, par quelque chose, mais je me suis dit qu'il y a peut-être... Il faudrait peut-être qu'on change de communication. Finalement, est-ce qu'il faut communiquer sur le fait que la Loire, c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on commence à communiquer, un petit peu comme bon état, très bon état, d'un point de vue caractère sauvage de notre fleuve, c'est un fleuve presque sauvage, et il faut qu'on le rende sauvage. Dire ces derniers fleuves sauvages, est-ce que ce n'est pas pour partie cautionner certains immobilismes, alors même qu'on se rend compte que des choses doivent encore bouger. Donc notre objectif pourrait être, notre slogan peut-être, pourrait être demain un fleuve sauvage. Aujourd'hui, il y a encore des petites choses à faire. Il faut développer la connaissance, ça a été dit ce matin. Si on n'avait pas la connaissance, les scientifiques la jugeront toujours partielle, insuffisante. Mais on a déjà des outils d'aide à la décision. Donc il faut immobiliser, il faut continuer de les alimenter et considérer qu'ils peuvent être améliorés. Et puis, comment ne pas évoquer ce qui a été dit ce matin aussi, c'est la grande solitude des porteurs de projets. C'est un problème auquel nous sommes, j'ai envie de dire, à l'Agence de l'eau, quotidiennement confrontés. C'est presque facile d'inscrire dans un 10e programme. Nous allons continuer à doubler régulièrement les aides qu'on va donner au milieu aquatique. Ça, c'est presque facile. Ce qui est plus difficile, ensuite, c'est de faire en sorte que sur le terrain, les projets se montent. Donc, il faut des porteurs de projets qui en veulent, mais j'ai envie de dire, en la matière... Il ne suffit pas d'avoir seul l'ANIAC, il ne suffit pas d'avoir seul raison de son côté. Il faut que collectivement, les personnes adhèrent à un objectif. Et à ce moment-là, tout un tas de choses pourront se faire. Et bien sûr, l'Agence de l'eau sera très heureuse d'apporter une aide financière pour de tels projets. Je vous remercie de votre attention.